Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Les congrégations générales des cardinaux se poursuivent au Vatican. La sixième a eu lieu mardi, réunissant 183 cardinaux. Les défis qui se posent dans des contextes particuliers du monde et la réponse que peut apporter l'Église étaient au cœur de leur conversation. Le Collège des cardinaux qui exprime sa profonde gratitude à tous pour le soutien et la solidarité manifestés lors des funérailles du pape François samedi dernier ainsi que tous ses jours. Du pape François, on retiendra aussi sa simplicité et son sens d'ouverture avec les personnes. Témoignage de sœur Rita Mboshu, religieuse congolaise qui était proche du Saint-Père. Pendant que se poursuivent les novems diales, période de deuil de 9 jours, l'évêque de Mouila au Gabon, Monseigneur Mathieu Madega les Boisquéans, invite à continuer à prier pour le pape François et pour l'Église. Le jubilé des personnes vivant avec handicap s'est clôturé mardi. Vous écouterez une personne qui a participé à cet événement qui a eu lieu pendant 2 jours. Vous aurez les détails de tout ceci dans l'actualité de l'Église. Après un regard sur l'actualité sociale et politique en Afrique, nous conclurons cette édition par notre rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
La sixième congrégation générale des cardinaux s'est tenue dans la matinée de mardi. 183 cardinaux étaient présents, dont plus de 120 électeurs. Ils ont notamment échangé sur les défis auxquels l'Église est confrontée dans des contextes particuliers aujourd'hui. Le 7 mai, jour du début du conclave, une messe sera célébrée, dite « Pro Eligendo Pontifice ». Augustine Asta pour plus de détails.
L'Église et les défis auxquels elle est confrontée suivant les particularités de chaque continent, mais aussi la réponse qu'elle peut donner sont entre autres thèmes abordés au cours de cette sixième congrégation générale des cardinaux. Il y a eu au total 20 interventions, a indiqué la salle de presse du Saint-Siège ce mardi. 180 cardinaux étaient présents, dont plus de 120 électeurs. Deux cardinaux électeurs ne participeront pas au conclave pour des raisons de santé, a précisé la salle de presse, qui a aussi informé que lundi, le collège a décidé d'envoyer un message en signe de gratitude pour la participation, le soutien et la solidarité manifestés tous ces derniers jours, particulièrement le jour des funérailles du pape François. Le jour du conclave de cette année, le 7 mai, le même horaire sera observé comme lors du dernier conclave, celui de 2013. La messe pour l'élection du pape commencera à 10h en la basilique Saint-Pierre. Le conclave débutera avec la prière dans la chapelle Pauline du palais apostolique à 16h30 et sera suivi de la procession vers la chapelle Sixtine.
Merci Augustine. Eh oui, le Collège des cardinaux exprime sa profonde gratitude à tous pour le soutien et la solidarité manifestés lors des funérailles du pape François le 26 avril dernier. Les remerciements s'adressent aux chefs des églises et des communautés ecclésiales non catholiques, dont certains étaient présents et d'autres ont envoyé des délégations, aux représentants du judaïsme, de l'islam et d'autres religions, aux chefs d'État et délégations gouvernementales et institutionnelles, aux autorités italiennes, à la ville de Rome, aux services de sécurité, aux médias, aux employés du Vatican, pour leur implication dans la préparation de l'événement. Les cardinaux remercient aussi toutes les personnes qui ont participé, physiquement ou au loin, ainsi que les jeunes et adolescents qui ont participé jusqu'au dimanche 27 avril, date de clôture de leur jubilé. La présence de tous était à la fois une manière de participer à la douleur du Saint-Siège, mais aussi un hommage à l'engagement incessant du pape François en faveur de la foi, de la paix et de la fraternité entre tous les peuples de la terre, ont écrit les cardinaux. Du pape François, on retiendra aussi sa simplicité et son sens d'ouverture dans son rapport avec les personnes, mais aussi sa disponibilité à accueillir les personnes de toutes les origines. C'est notamment ce que retient sœur Rita Mboshu, membre de la congrégation des sœurs des Maries Corédemptrices. Cette religieuse congolaise était proche du pape François. Sous l'impulsion du Saint-Père, est née la Fondation Pape François pour l'Afrique qui s'occupe de l'autonomisation et de la responsabilisation des filles des œuvrées. Sœur Rita est présidente de cette fondation. Elle nous partage son témoignage.
Le pape François nous a enseigné la simplicité. Sa simplicité l'a poussé à m'appeler pour me demander un service. Quand il m'a appelé, moi je l'ai reconnu. C'était à 18h. J'ai reconnu sa voix et il s'est mis à rire. La première phrase, il a dit « Ah, le patron a reconnu son chien ». Et moi j'ai dit « Non, Saint-Été, c'est le chien qui a reconnu son patron ».
Avec son sens d'humour. Hein?
Alors c'est une simplicité incroyable. Le Saint-Père qui vous appelle, qui appelle une fille, une religieuse, une africaine, une femme. Première rencontre avec le pape François. Il s'est présenté chez moi comme un chien qui mendiait, qui demandait un service. Et cette phrase-là est restée gravée dans mon cœur, de sa simplicité. Et cette simplicité-là, qui le poussait à demander pardon, à chercher la paix, à s'agenouiller devant tout le monde parce qu'il voyait l'homme, l'image de Dieu. Pas seulement la simplicité, mais aussi l'ouverture. C'est ainsi qu'il me dira, j'aimerais te rencontrer. Vous voyez un peu quelle ouverture, quelle simplicité et quelle manière, esprit disponible à accueillir chaque personne. C'est ça ce qu'il disait, le pasteur doit avoir l'odeur
de ses brebis.
Sœur Rita Mboshu, de la congrégation des Sœurs de Marie Corédemptrice, professeure de théologie et présidente de la Fondation Pape François pour l'Afrique. Sous les pontificats du pape François, les collèges des cardinaux a beaucoup changé des paysages. Comment se présente aujourd'hui le Sacré Collège en fonction des zones de provenance des cardinaux? Xavier Sartre nous en donne une description.
C'est un collège qui évolue sans cesse par définition, mais aujourd'hui il y a 135 électeurs. Sur ces 135, 108 ont été créés par François, 22 par Benoît XVI et 5 par Jean-Paul II. C'est donc un collège qui porte une forte empreinte du pape défunt qui prendra part au conclave. Une empreinte qui se remarque également selon la provenance géographique de ses cardinaux. Pape des périphéries, François n'a pas hésité à créer cardinal des évêques ou des archevêques dont le siège épiscopal n'était pas traditionnel associé à un titre cardinaliste ou qui venait de pays qui n'avaient jamais eu de cardinaux par le passé. C'est le cas d'Haïti, de la République centrafricaine, du Luxembourg, de la Birmanie ou du Cap-Vert pour n'en citer que quelques-uns. Certes, dans l'ensemble, les Européens sont toujours majoritaires, mais les cardinaux originaires du continent américain, entendus de l'Alaska à la Terre de Feu, suivent de près, suivis par les Asiatiques, entendus comme du Bosphore au Japon, viennent ensuite les Africains et enfin ceux originaires d'Océanie. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution de ce collège entre le début et la fin du pontificat. Et c'est là que l'on se rend compte de l'ouverture du collège cardinaliste sous François. Les Européens, qui ont représenté encore plus de la moitié en 2013, ne représentent plus que 39% des cardinaux. Quant aux Asiatiques, ils sont passés de 10 à 17%. Les Africains, eux, de 9 à 13%. Si on regarde ceux qui ont le droit de vote et ceux qui ne l'ont pas, on remarque que les Européens seront plus nombreux hors de la chapelle Sixtine que dedans, un signe du vieillissement de l'Église en Europe, alors qu'en Océanie, elle est très jeune. Les cardinaux venus des antipodes sont tous électeurs, alors certes, ils ne sont que 4, mais c'est assez significatif de l'évolution du catholicisme.
Merci Xavier. Entre-temps, se poursuivent les messes des Novemdiales chaque jour dans la basilique Saint-Pierre. Les Novemdiales, la période de 9 jours de deuil en hommage au regretté pape François. Pour l'évêque de Mouila au Gabon, Monseigneur Mathieu Madega les Boisquéans, ces 9 jours sont comme une neuvaine des prières où nous sommes invités à prier pour que le pape François entre dans la félicité éternelle et à prier aussi pour tous ceux qui ont été réceptifs de son message.
Eh bien, vous savez que nous avons l'habitude des neuvaines. Et pour nous, une neuvaine, c'est un temps de mise en prière, donc que Dieu soit le centre pour que nous prions afin que le pape qui nous a quittés contemple la gloire de Dieu, qu'il entre en intimité avec Dieu et que de cette intimité, il nous obtienne des grâces. comme nous l'avons vécu à sa messe de funérailles, il y a eu la grande litanie des saints avec une bonne partie des papes saints qui ont été cités pour qu'ils prient pour lui. Et donc, pendant cette période, nous devons nous mettre à l'écoute de Dieu, prier et pour l'Église que le pape a servie, et pour son repos, et pour toutes les personnes qui ont été réceptives du message d'amour qu'il a laissé.
Monseigneur Mathieu Madega, le Boisquéan, évêque de Mouila au Gabon. La mission, c'est aimer. Voilà ce que retient Patrick Talon de sa venue à Rome à l'occasion du jubilé des personnes en situation de handicap, jubilé qui a eu lieu les 28 et 29 avril. Ce franco-camerounais en fauteuil roulant témoigne de la nécessité pour l'Église de toujours s'adapter à toutes les situations des fidèles pour pouvoir continuer à porter le message de l'Évangile.
Je crois que venir ici, c'est prendre conscience qu'on est tous appelés. C'est-à-dire, même étant sur mon fauteuil roulant, je suis appelé. Qu'est-ce que ça fait de venir ici? Ça fait tout simplement de comprendre que mon fauteuil n'est pas objet de limitation. Même avec le fait que mes membres ne bougent pas, Dieu m'appelle aussi dans la vigne à porter la joie de l'Évangile. Dieu m'appelle aussi, comme personne en situation de handicap, d'être missionnaire. Missionnaire d'amour, missionnaire d'espérance. Attention, je précise très bien, ça ne veut pas dire que je ne prends pas conscience que j'ai des épreuves. Non, c'est tout simplement que le vendredi saint ne vient pas effacer le dimanche de Pâques qui est espérance et joie. Donc être ici, c'est être en communion avec l'ensemble de l'Église et c'est de faire comprendre que je fais partie du peuple de Dieu et dans ma spécificité, moi aussi j'ai une place dans cette vie. Je repars avec trois choses. D'abord, c'est la rencontre avec le Seigneur qui me parle à travers les événements. Deuxième chose, c'est la rencontre avec les autres qui sont différents de moi, qui vont pas forcément réfléchir comme moi, qui différentes nationalités, et pourtant, dans la manière de se comporter, ils vont me dire quelque chose du projet de Dieu en moi. Et enfin, je repartirai certainement avec plein de couleurs que je veux voir dans mon âme. Et je sais une chose, Dieu n'est pas mort. Dieu, il est vivant. Et je crois que je repartirai avec l'espérance. L'espérance pour le diocèse de Lille, espérance aussi pour l'Afrique, parce que j'ai la double culture. Double culture dans le sens qu'on ne perd pas son identité. On a une première identité culturelle aussi là où on vient. C'est une chance pour l'humanité. La diversité est une chance. Je crois que c'est le défi de l'humanité aujourd'hui. C'est le défi de l'Église aujourd'hui. Et peut-être c'est ça aussi que le pape François nous laisse comme message.
Patrick Talon, une personne vivant avec handicap. Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. À présent, un regard sur l'actualité sociale et politique en Afrique. Fabrice Baguendekere.
Merci Stanislas. Au moins 15 personnes ont été tuées lundi par des djihadistes affiliés à l'État islamique dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, selon la déclaration d'un chef communautaire et des habitants. Ce matin, 15 corps ont été retrouvés dans les villages et dans les buissons environnants, a déclaré Ayuba Alamson, un chef communautaire de la ville de Chibok, située à 5 km de Kwapel. Selon Alamson, les insurgés de l'ISWAP ont ouvert les feux sur les personnes en deuil et les ont poursuivis à moto dans la brousse alors qu'ils tentaient de s'enfuir. L'insurrection djihadiste a fait depuis 15 ans plus de 40 000 personnes et 2 millions de déplacés dans cette région du pays le plus peuplé d'Afrique. Toujours au Nigeria, 26 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un camion sur une mine artisanale placée le long d'une route dans l'état de Borno, toujours dans le nord-est du Nigeria. Le camion avait quitté Ran vers 10 heures et se dirigeait vers la ville de Gamboru à 30 km de là lorsqu'il a heurté la mine à 11 km du départ, selon l'officier militaire qui a fait le constat de l'incident. Des 26 personnes tuées dans l'explosion, 16 hommes, 4 femmes et 6 enfants. En Tunisie, le président Saïed dénonce une ingérence flagrante après des critiques à l'international, notamment de la France et l'Allemagne, concernant la condamnation d'opposants à de lourdes peines de prison. Les déclarations et communiqués émanant de parties étrangères sont inacceptables et constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Tunisie, a dit Saïed en recevant son ministre des Affaires étrangères selon un communiqué de la présidence. Des dizaines de personnalités tunisiennes, incluant des grands noms de l'opposition, ont récemment été condamnées à de lourdes peines pour complot contre la sûreté de l'État, ce qu'elles nient en dénonçant un dossier vide et politique.
Merci Fabrice. Restons avec vous pour la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde.
Eh bien Stanislas, comme pour l'Église en Afrique, les voix qui nous sont parvenues des autres continents sont toutes des hommages au pape François, ce pape qui a joint les quatre bouts du monde durant son pontificat, le pape qui est allé jusqu'aux périphéries les plus périphériques, comme l'a rappelé le cardinal Ray dans son homélie lors de la messe des funérailles du défunt pape. Mais peut-être qu'il faut commencer par l'Argentine, son pays. La messe a été suivie par des millions d'Argentins, et particulièrement les fidèles de Buenos Aires et des bidonvilles de la capitale avec lesquels Jorge et Mario Bergoglio avaient tissé des liens d'amitié, comme en témoigne le père Pepe, prêtre des bidonvilles de Buenos Aires et ami de longue date de François.
De Buenos Aires rendent hommage spécialement à l'obispo Jorge.
De nombreux habitants de Buenos Aires ont rendu un hommage particulier à l'évêque Jorge. Les gens des bidonvilles avaient une place particulière dans son cœur. Il n'a pas seulement établi des liens avec les prêtres des quartiers pauvres, il appréciait que des prêtres vivent dans ces quartiers, mais il a aussi créé des liens et travaillé avec les gens du quartier. Et cela a fait que la réalité de l'église de Buenos Aires, tant dans la foi que dans l'engagement social, est née de son travail et de cette proximité. Et Bergoglio adorait ça. Il montrait beaucoup d'empathie. Il était d'une grande simplicité. Il prenait le bus, il se déplaçait aussi à pied. Les gens le voyaient tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui rapprochait les gens de lui et qui les surprenait parce qu'ils n'avaient jamais vu cela d'un évêque. Alors, ils le pleurent comme s'ils avaient perdu leur père. Ils se sentent orphelins. Ailleurs dans le pays, dans les autres quartiers pauvres, beaucoup de gens le regrettent également, car ils commencent à comprendre qu'il était vraiment le pape des pauvres, des quartiers, des bidonvilles, des endroits où peut-être l'État n'est pas encore arrivé, des endroits où l'Église est vivante grâce à l'engagement de François.
Et ce fervor que le pape Francisco le ponait.
Le pape des pauvres, c'est cela aussi que nous dit Étienne Villemain, qui est le fondateur des associations Lazare, puis Fratelli et Village de François en France, mais aussi et surtout celui qui a insufflé à François l'idée d'une journée mondiale des pauvres, désormais célébrée chaque 17 novembre.
Je pense que ce qu'a fait le pape François, quand il a dit qu'il voulait une église pauvre pour les pauvres et même pauvre avec les pauvres, c'est quelque chose qui a transformé intégralement l'église. Quand il demande qu'il n'y ait plus de cléricalisme, en fait, il veut que certains clercs qui étaient dans leurs chaises en hauteur descendent et marche avec les petits et les pauvres. Et je suis par exemple frappé jusque dans le rite de son enterrement. Il demande que son cercueil soit posé plus bas sur le sol, etc. C'est en permanence que le Christ a fait. Le Christ est descendu dans nos enfers et nous a arrachés à la mort. Et je pense que le pape François a essayé d'être dans cette attention, dans cette descente de ce surplomb et de faire descendre l'Église pour être plus accueillante, plus fraternelle, plus bienveillante et aussi plus spirituelle. Je pense que le pape François, en choisissant Saint François comme nom, a eu l'idée de ce saint qui est profondément accroché au Christ et en même temps qui embrasse un lépreux et qui est proche des petits. Ce pape a changé l'Église d'une manière irrémédiable. L'Église se rend compte qu'il faut accueillir les pauvres et au travers de cet accueil des pauvres, l'Église devient féconde.
Et comme pour nombreux pays en difficulté, le pape François n'avait pas cessé de lancer des appels en faveur de la Birmanie, des appels à la paix et à la solidarité. On se rappellera que quelques semaines avant son décès, François avait non seulement exprimé ses condoléances à toutes les personnes touchées par le tragique tremblement de terre qui a secoué ce pays, mais il a également offert des vivres pour aider la population en détresse. Selon le père Ludovic Mathieu, missionnaire des missions étrangères de Paris en Birmanie, le pontificat du pape François aura marqué pour toujours les populations birmanes.
La Birmanie, très peu de gens en parlent. Le fait que le Saint-Père permettait de mettre de la lumière là où il y avait beaucoup d'ombre, en priant pour ce pays, en l'évoquant régulièrement dans les Angélus, forcément. Ça a été un soutien pour la population locale. Pendant les crises multiples, ça a été un des rares à mettre cette souffrance en lumière pour que tout le monde puisse prier et essayer de faire ce qu'on peut pour soulager ce peuple. Et je pense que ça, oui, je pense que ça restera dans le cœur des Birmans.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.